Bonjour à tous, bienvenue dans le premier balado « Vos solutions RH ». À travers les prochaines capsules, nous vous accompagnerons pour mieux décortiquer le processus de dotation. La première étape, c'est l'analyse de vos besoins et l'affichage de postes. Puisque c'est une étape super importante, c'est la pierre angulaire de l'ensemble du processus, nous vous avons scindé le sujet en deux parties. Cette première partie, que vous écoutez à l'instant, portera sur l'analyse des besoins. Je suis Marie-Ève Ménard, directrice du service aux entreprises chez Développement Vaudreuil-Soulanges et je suis ravie d'être accompagnée aujourd'hui par nos deux expertes en recrutement, Marc-Claude Morin et Valérie Villeneuve, toutes deux associées et expertes conseils chez Alternative RH. Bienvenue, mesdames.
Bonjour, Marie-Ève, et merci pour cette belle invitation. On est ravis d'être ici pour discuter avec vous de sujets si importants qui semblent souvent bien complexes hein, pour les gestionnaires de PME et les clients qui nous écoutent.
Oui, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir d'être là. Écoute, on va essayer de décomplexifier là, les pratiques en matière de recrutement pour aider les entrepreneurs de la région à attirer les meilleurs candidats puis éviter de tomber dans certains pièges. On va se le dire, il y en a quelques-uns en recrutement. Donc, on va essayer d'aider les gens là-dessus.
Merci beaucoup. Donc, on va commencer, comme je disais, avec l'analyse de nos besoins. Quand on parle de recrutement, ça va vite. On a l'impression qu'il faut aller plus vite que le voisin. Hein? Il faut être plus actif que notre concurrence pour pouvoir aller chercher les meilleurs talents. Mais on entend parler aussi qu'il y a certains moments, certaines situations économiques, on se trouve à être dans des marchés lents. Et à d'autres moments, où est-ce qu'on est dans des marchés plus rapides? Pouvez-vous me dire, c'est quoi un peu la différence entre les deux?
Hey, on va t'expliquer ça, Marie-Ève. Dans le fond, pendant plusieurs années, on était dans un marché lent. Un marché lent, c'est un marché qui est linéaire. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on affichait nos postes, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. On mettait une date limite. Là, envoyez-nous votre candidature avant telle date. Puis, une fois que la date était terminée, bien, on comparait les CV, on analysait les candidats, on choisissait qui on allait faire passer à la prochaine étape. Bref, on avait du choix, puis on faisait notre processus étape par étape. Bon, on a encore ce type de marché-là dans certains postes, mais je vous dirais que c'est quand même assez rare. Là, on est dans un marché rapide. Ce que ça veut dire, c'est que je dois aller vite. Donc, dès que je reçois un CV qui est intéressant, bien, tout de suite, je le fais passer dans mes étapes de recrutement. Je n'attends pas de pouvoir le comparer. C'est plate, mais c'est comme ça. Donc, je ne mets plus de date butoir sur mes mises en candidature, dans le fond. J'ai aucune idée quand je vais fermer mon offre d'emploi. Je vais laisser les candidatures arriver, puis je vais y aller, puis je vais m'adapter en fonction de ça. Donc, ce que ça fait, c'est que ça demande plus d'agilité pour les entrepreneurs, hein, plus de rapidité, de la flexibilité, beaucoup de disponibilité. Puis je sais qu'on aime ça comme entrepreneur, avoir le choix puis de comparer les candidats, mais malheureusement, dans le marché rapide, là, c'est pas toujours facile. On peut pas toujours faire ça.
Je retiens donc qu'il faut prendre en considération le moment présent. Le moment, ça peut être le moment, l'année, ça peut être la situation économique, mais ça peut être aussi la période dans l'année. Hein. On va en reparler un petit peu plus loin, là, mais il y a des moments clés où est-ce que les gens sont plus disponibles à soit changer d'emploi ou à intégrer des nouvelles fonctions. Donc, cette première étape-là va débuter avec l'analyse des besoins. C'est une étape qui est souvent négligée parce que nous, en tant qu'entrepreneurs, on sait ce qu'on veut dans notre tête, mais là, il faut aller le dire aux candidats potentiels, donc il faut aller préciser nos besoins. Marc-Claude, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette étape-là?
Bien, absolument. L'analyse des besoins, ça débute par l'analyse de la situation de l'entreprise maintenant, mais demain, à moyen terme, à plus long terme. Donc, on se pose des réelles questions sur nos besoins ici, maintenant et pour l'avenir. On pense à nos périodes achalandées, nos périodes creuses, les périodes de vacances. Pour bien identifier, c'est quand qu'on va avoir besoin de quelqu'un et de qui comme personne, quelle sorte de personne on va vouloir. On peut aussi demander à nos employés, parce que souvent, ce sont eux qui sont les mieux placés pour nous donner le son de cloche au niveau du taux là, d'occupation. Là. Est-ce qu'on est dans le rush, pas dans le rush, quand? Imaginez que je suis dans le commerce de détail, puis j'ai besoin de main-d'œuvre supplémentaire à Noël.
Oui, c'était mon premier exemple. Tu me devances parce que pour moi, la période de Noël, c'est la période où est-ce qu'on voit des nouveaux employés sur le plancher. Puis il faut le prévoir d'avance. Hein, le temps aussi, il faut se donner tout le temps des périodes tampons d'intégration, formation. Fait que la période de Noël, là, c'est vraiment une période à planifier d'avance. Continuons un peu là, sur comment on prévoit ça, que je sais que ça va s'en venir, cette période-là.
Bien, en fait, ce qu'on doit se dire, c'est est-ce que je vais avoir besoin dans le rush de Noël là, qui s'en vient tout près, de quelqu'un, d'embaucher une conseillère, par exemple, qui va arriver pleinement formée, ou je pourrais modifier le poste, y repenser, puis me dire que je vais juste créer un poste de commis vendeur ou de commis d'entrepôt qui va juste aller chercher les commandes des clients. Donc, c'est de penser à d'une façon un petit peu plus large. On regarde l'ensemble des tâches, l'ensemble des besoins. Qu'est-ce que ça va prendre pour faire fonctionner l'organisation? Et bien, c'est avec ça qu'on voit nos besoins de recrutement. C'est une tâche importante parce que une fois que ça, c'est réfléchi, réalisé, bien, c'est ça qui nous permet de définir qu'est-ce qu'on va rechercher en termes de talent. Ça implique d'identifier toutes les tâches qui doivent être faites, les projets, les mandats pour lesquels on va avoir besoin de personnel supplémentaire, puis de commencer à réfléchir aussi sur les compétences, les qualités que ça va prendre pour occuper ce poste-là. Il faut aussi se questionner sur un élément très important. Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? Par exemple, si je veux un CPA, mais que j'ai un budget de 50 000 $, je ne pense pas que ça va être un succès.
À 50 000, non, il n'y en aura pas de CPA. Non, ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment important de définir le profil du candidat idéal. T'sais, quand je visualise la personne que j'ai besoin, bien, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'elle a comme études? Qu'est-ce qu'elle sait faire? C'est quoi son savoir-faire en lien avec le poste que j'ai besoin chez nous? Son savoir-être aussi. Marc-Claude en a parlé un petit peu, mais on ne va jamais arrêter de parler de ça. Dans le fond, le savoir-être, c'est quoi les comportements que je m'attends de cette personne-là? T'sais, faire son travail au Québec, bien, c'est faire ses tâches avec des bons comportements. Il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut que cette personne-là ait comme comportement pour bien fonctionner dans notre équipe? Fait que ça nous aide à cibler nos recherches et à trouver les meilleurs fits pour notre entreprise. T'sais. Quand je définis le candidat idéal, bien, après ça, bien, j'ai mieux ciblé mon besoin, j'ai mieux ciblé le candidat idéal. On sauve du temps puis souvent bien du trouble.
Donc, la période, moi, je retiens la période. Est-ce que c'est présentement? Est-ce que c'est à venir que je vais avoir besoin de cette personne-là? Quel talent j'ai besoin d'aller chercher? Est-ce que c'est du talent complémentaire aux membres de mon équipe, des talents supplémentaires ou c'est vraiment, vraiment pour venir grossir des équipes parce que j'ai des besoins supplémentaires? Et toujours repenser ça aussi, à intégrer ça, faire des projections de budget. Est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions? Je me pose ces questions-là, période, talent, budget, mais là, je me demande, est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est toujours de faire ce saut-là qui peut donner le vertige à un entrepreneur. Comment on décide, c'est le temps, les filles, là, d'y aller?
Et si on avait une boule de cristal permettant de répondre à cette question-là, je pense qu'on serait riche et célèbre. Il n'y a pas vraiment de possibilité de savoir à 100 % est-ce que c'est le temps d'embaucher quelqu'un. T'sais, je veux dire, à un moment donné, il faut suivre son intuition, mais on peut quand même analyser la situation assez grand pour se faire confiance là-dedans. C'est sûr que nous, on vous recommande de lister toutes les tâches. T'sais, toutes les tâches, qu'est-ce qu'on a besoin qu'il soit fait dans... maintenant, mais aussi à moyen terme. Là, on appelle ça « mapper ». Là, dans le fond, on va mapper toutes les tâches qu'on a besoin de faire en les listant, en les marquant. Fait que là, on va regarder l'ensemble de ces tâches-là, puis on va être capable d'identifier à travers tout ce lot de tâches-là, bien, est-ce que si je répartis, tu sais, mettons que je répartis mes tâches différemment, est-ce que je peux avoir un meilleur résultat? Est-ce que peut-être je vais réaliser que j'ai une adjointe administrative qui fait 90 % de sa semaine, je vais dire n'importe quoi, des factures à la main, puis que je pourrais aller chercher un logiciel qui me permettrait de faire les factures en une heure, peut-être. Bon, bien là, peut-être que j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai peut-être juste besoin d'optimiser mes logiciels, mais peut-être qu'aussi en regardant dans mon mapping, je vais voir, hey, j'ai vraiment besoin de quelqu'un finalement. Donc, de prendre le temps d'analyser, là, c'est ce qui va nous permettre de nous sentir confiants qu'on a vraiment besoin de quelqu'un. Puis parce qu'on est consciente, là, nous aussi, on est entrepreneurs, on sait que c'est une grosse étape. Là, quand on embauche nos employés, là, c'est ton salaire que tu donnes aux employés. Là, donc, on est très consciente de ça. Mais en analysant la situation, là, vous allez être capable de vous faire confiance pour la suite puis d'être plus convaincu que c'est une bonne décision.
Bien d'accord avec toi, Valérie, absolument. Je conclurais un peu là-dessus en disant que plus on va investir du temps, des ressources dans l'analyse en amont du recrutement, bien plus on va attirer des bons talents, puis ça va avoir un impact significatif sur la performance de l'organisation, sur la réussite à long terme de l'organisation avec les gens qui vont y faire partie. Puis tu sais, à la fin, bien, ça se pourrait que l'analyse nous dise que l'embauche, c'est pas la bonne solution. Bien là, on changera notre plan de match. Mais ça va nous permettre aussi d'avoir une validation forte, de dire « oui, je continue, je le lance le processus, puis on poursuit aux prochaines étapes ».
Donc, tu sais, moi, je, quand on accompagne des entrepreneurs, on est souvent, au départ, quand on fait le plan d'affaires, c'est quelque chose auquel on a réfléchi, puis on a l'impression que ça va venir dans vraiment longtemps, l'embauche de cette première ressource-là. Une des bonnes solutions, c'est de regarder des fois vers de l'impartition. Donc, on peut aller chercher des ressources professionnelles à l'externe, mais d'analyser ces ressources-là, on les rentabilise bien. Est-ce que, finalement, je suis rendue au point où ces ressources-là pourraient être de façon permanente chez moi? Puis c'est quand même une responsabilité là, de l'embaucher quelqu'un puis de pouvoir lui fournir du travail à tous les jours, à toutes les semaines. Donc, de faire cette transition-là entre l'impartition et tout ça. Fait que j'aime votre approche là, qui est de revoir ça comme étant un plan à moyen, long terme avec nos ressources. C'est comme revenir à la base quand on faisait notre plan d'affaires au démarrage.
Exactement, Marie-Ève.
Ces besoins-là identifiés, on va rédiger le profil de poste. Puis là, on va y revenir souvent là, à travers notre podcast parce que c'est vraiment la pièce maîtresse, c'est la base, la fondation de notre recrutement. Valérie, le profil de poste, peux-tu nous convaincre de l'importance de le faire, ce fameux profil de poste-là?
Hey, j'espère qu'au bout de ces podcasts-là, si je vais avoir réussi quelque chose, c'est de vous convaincre de faire des profils de poste. Les profils de poste, c'est pas sexy. C'est un outil ressources humaines qui est pas sexy, qui est souvent négligé, mais je vous le dis là, c'est le document que vous avez besoin pour chacun de vos postes. C'est un document qui est essentiel, qui va vous permettre non seulement d'aller chercher le bon profil pour votre recrutement, mais qui va vous aider à le gérer par la suite. Tu sais, en gestion, tu as le droit de gérer ce qui est clairement défini. Bien, le profil de poste, c'est une partie de ça. Fait que dans le fond, sur ton profil de poste, bien, on va aller mettre quoi? On va aller mettre les responsabilités. Qu'est-ce que cette personne-là va faire? C'est quoi sa limite de responsabilité aussi dans les tâches qu'elle va faire? Donc, ça peut prendre des décisions, peut pas prendre des décisions. Faut qu'elle vienne valider. On veut le définir là, le plus gros possible. Là. On veut que ça soit vraiment clair. On va aller mettre les compétences que ça prend, puis les attentes liées au poste. Donc, les attentes liées au poste, oui, au niveau des tâches, qu'est-ce que je veux qu'elle fasse, mais une étape qui est souvent négligée, c'est les comportements. La majorité des cas au nom du travail, là, c'est des cas de comportement. Hein. C'est pas quelqu'un qui faisait pas sa job, c'est quelqu'un qui avait une mauvaise attitude puis qui faisait pas la bonne chose. Donc, comme entrepreneur, comme gestionnaire, bien, d'identifier les comportements attendus, ça va être facile pour vous, après ça, de revenir avec cet employé-là pour dire, écoute, on s'était entendu que tu devais être collaboratif, puis regarde, je te donne 3-4 exemples de situations où tu pas été dans la collaboration. Donc, c'est très, très, très important d'aller définir ça dans votre profil de poste. En plus, bien, ça va nous permettre d'identifier notre candidat idéal, qu'est-ce qu'on veut pour ce poste-là, puis de l'attirer, parce qu'il va se reconnaître quand il va lire l'affichage de poste plus tard. T'sais, il va dire « Ah, ça, c'est moi, ça me ressemble, il va avoir le goût de venir travailler chez vous ». Donc, le profil de poste, c'est un guide tout au long du processus du recrutement, dans la sélection des candidats, mais ça va vous suivre tout au long de votre gestion, là, qu'on parle d'évaluation, de la performance, de suivi. C'est un outil vraiment, vraiment pratique.
Si je peux même préciser un peu, avant, on appelait ça des descriptions de tâches, hein, le profil de poste, on va lister, comme tu l'as dit, Valérie, toutes les tâches, mais ensuite, on va les séparer en sous-catégories. Donc, ce n'est pas une liste de tâches de 1 à 36. Ça pourrait être la première section, je fais de la vente. Bien, combien de pourcentage de temps je vais travailler en vente? Puis là, je vais lister les tâches qui sont liées à la vente. Peut-être que la deuxième partie du pourcentage, ça va être faire de l'administration, 20 % de mon temps. Là, je vais lister ces tâches-là. Je ne serai donc pas surpris. Je vais m'attendre, en fait, à mon vendeur. Si j'ai dit que 80 % du temps, il était en vente, bien, je m'attends à le voir sur le plancher se promener à travers les clients. Si 50 % du temps, il est dans son bureau, on va peut-être avoir une petite discussion parce que ça ne fera pas de sens. Même chose au niveau des comportements. Je vais lister dans le profil de poste les comportements qui sont des facteurs de succès dans le poste. C'est quoi les attitudes, les comportements, les façons d'être qui vont faire en sorte que je vais réussir et que je vais être bien et bon dans mon poste? Par exemple, si demain, je créais un poste de réceptionniste, bien clairement, j'inscrirais dans les comportements que je m'attends à ce qu'elle ait un sourire dans la voix. Hein?
On prend pour acquis que la réceptionniste, elle va avoir un sourire dans la voix, mais tu sais, des fois, justement, là, comme vous dites, ça peut aller aussi loin que revenir avec la personne dans les évaluations de performance parce que c'est vraiment le comportement attendu, même si c'est un comportement que nous, on prend pour acquis là, quand on fait cet exercice-là.
Tellement d'accord avec toi, Marie-Ève, parce que le profil de poste, c'est un outil de gestion aussi. Fait que si ma réceptionniste n'a pas de sourire dans la voix, bien, on pourrait avoir une petite conversation, je ressors mon outil, puis je dis « rappelle-toi, à l'embauche, c'était écrit ». Dernière petite chose à mettre dans le profil de poste, évidemment, c'est la scolarité, l'expérience. Puis il faut quand même être prudent, hein, parce que plus je demande de choses, bien plus ça a une valeur sur le marché. Donc, il faut penser à ça, inclure les choses qui sont nécessaires.
Oui, ça arrive quand même souvent. Là. Les gens, ils oublient ce facteur-là, puis ils nous font une liste, la liste du Père Noël. Tu sais, je veux que la personne, elle soit trilingue, deux baccalauréats de maîtrise. Bref, on demande 1000 choses, mais on n'est pas prêt à payer en conséquence. Chaque chose qu'on va mettre comme exigence a un prix. Donc, il faut garder ça en tête. Tu sais, dans le fond, on va regarder qu'est-ce qu'on veut mettre, puis là, il faut regarder dans le marché, est-ce que ça marche, est-ce que j'ai les moyens de mes ambitions, tu sais. Pour faire des profils de poste, nous, ce qu'on fait chez Alternative RH, dans le fond, on va rencontrer des emplois qui font ce poste-là pour nous aider à développer le profil de poste. Donc, si vous avez des employés, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes dans le commerce de détail, votre vendeur sur le plancher, bien, vous rencontrez-le, à quoi ça ressemble tes tâches? Puis là, souvent, ils figent un petit peu. Demandez-le pendant une semaine de noter qu'est-ce qu'ils font. Là, ils vont être en mesure de vous donner du matériel. Vous pouvez faire ça avec tous les postes. Si jamais c'est votre premier employé, il n'a jamais fait ça, bien, il y a des ressources qui existent pour vous donner des profils types ou vous pouvez aller chercher des concurrents ou chez des collègues qui ont le même type d'entreprise que vous, qui peuvent vous donner des idées pour vous aider à bien bâtir la suite.
Bien, notamment, Valérie, on va déposer sur la plateforme de Dev des liens vers l'externe, notamment chez Détail Québec. Donc, Détail Québec ont déjà des fiches de métiers, donc des métiers dans le secteur du commerce de détail, des métiers typiques comme, par exemple, des vendeurs conseils, des gens au web, des gens qui sont plus sur le plancher. Donc, c'est vraiment des outils super intéressants pour venir briser le syndrome de la page blanche quand on va débuter. Donc, c'est vraiment des bons outils. Parlant d'outils, vous allez pouvoir aussi télécharger des documents sur le site de Dev dans notre première section pour vous aider à bâtir vos outils de description de tâches. Donc, un peu comme Marc-Claude nous expliquait tantôt, on va vous donner un canevas de travail pour avoir certaines sections avec des pourcentages. Donc, ça va vous aider à venir bâtir votre profil de poste. Donc, merci les filles. Ça fait le tour de la première capsule dans la section analyse des besoins. Donc, on se rappelle qu'on a parlé d'identifier nos besoins, puis on a parlé aussi du profil de poste. On se retrouve pour l'affichage dans la prochaine capsule. Merci.
Merci Marie-Ève.